Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous au micro. Josèle Morissin assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de feu Monseigneur Jacques Gaillot. Né le 11 septembre 1935, Monseigneur Jacques Gaillot est mort le 12 avril 2023 à Paris. Il est connu pour ses prises de position contraires au magistère de l'Église catholique et considéré comme allant au-delà de la réserve demandée aux membres du clergé. Monseigneur Jacques Gaillot est aussi admiré par beaucoup de personnes pour son engagement en faveur des droits de l'homme, de la justice sociale et de la paix. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Le professeur Jean-Claude Jéréquet, les docteurs en histoire contemporaine et en sociologie des religions. Professeur Jéréquet, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à nos auditeurs.
Bienvenue dans le dialogue des religions.
Merci.
Nestor Bidada Nouré se trouve à Paris. Il est philosophe et écrivain. Ses recherches s'intéressent aux problématiques de résolution des conflits et de paix durable. Nestor, bonsoir.
Bonsoir Mania Kiza et bonsoir à tous les auditeurs.
Bienvenue dans le dialogue des religions et je commence avec vous, Monseigneur Jacques Gaillot. Est considéré comme un personnage controversé, mais vous avez exprimé votre respect envers lui, n'est-ce pas? Comment décririez-vous sa personnalité?
Alors, c'est une personnalité d'une très grande humilité, avec des convictions, je dirais, humanistes fortes. Il avait beau être populaire et médiatisé, mais c'était malgré lui. Car c'était quelqu'un de vraiment très humble. Malgré sa popularité, il était toujours du côté des humbles, des invisibles, ce qu'on appelle les damnés de la terre. Et il était toujours en train de lutter du côté des sans-papiers, des anciens prisonniers, des chômeurs, des sans-domicile fixe, etc. Et ce n'était pas facile, c'est pas facile de s'engager à marge, parce que s'engager du côté de cette humanité à marge n'apporte aucune rentabilité politique. C'est pourquoi je dirais que c'était un humaniste engagé, un altruiste en quelque sorte.
Personnalité très humble, mais aussi urbaine.
Absolument. Il était Robert et ce n'était pas facile. Je pense que c'est Nelson Mandela qui disait « No easy road to freedom », pas de chemin facile pour la liberté. Questionner une institution aussi solide, questionner les fondements de cette institution, je veux dire l'Église catholique, a toujours un prix. Mais je pense qu'il a dit tout haut ce que de nombreux prêtres pensent probablement tout bas, notamment la question du mariage des prêtres et le fait qu'il s'intéressait, il était solidaire avec les homosexuels, le fait qu'il était pour l'usage des moyens contraceptifs, etc. heurtait bien sûr le consensus de l'époque. Et c'est sans doute ses positions avant-gardistes et qui ont fait qu'il a payé le prix le plus, je dirais, lourd. Parce que il a, même s'il n'a pas été exclu de l'Église, il a été fortement marginalisé. Mais je pense que l'histoire lui donnera raison. C'est toujours un peu comme ça.
Nous allons y revenir. Jean-Claude Jéréquet, vous avez rendu un grand hommage à Monseigneur Gaillot. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer aussi. Voudriez-vous nous décrire ce moment et dire aussi pourquoi vous avez souhaité le voir?
J'avais souhaité rencontrer Monseigneur Gaillot parce que quand j'étais plus jeune, séminariste, jeune prêtre, c'est quelqu'un qui me fascinait. Et en fait, ce qui me fascinait, c'était le combat qu'il a mené, sa proximité avec les exclus, les pauvres. Hein. C'est quelqu'un qui allait là où l'Église n'a pas coutume d'aller, ce que François appelle aujourd'hui les périphéries. Ouais. Donc c'est ça qui m'avait vraiment fasciné chez lui. Et donc, quand je suis arrivé à Paris en décembre 2020, en pleine la crise de Covid, j'ai demandé à le rencontrer et il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à me recevoir. Et notre rencontre a eu lieu 30 rue Lomont, chez les Spiritains. Et tout à l'heure, le confrère qui est intervenu avant moi a parlé de l'humilité, de la simplicité de Gaillot. Et je le confirme parce que il était habillé simplement, il m'a offert un petit déjeuner. Nous avons parlé, nous avons discuté de beaucoup de choses. Et puis, je devais rencontrer les religieuses, les avières qui sont juste à côté. Et Gaillot a proposé de m'accompagner là-bas. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il a pris la valise que j'avais, la petite valise que j'avais. C'est lui qui l'a prise, vous voyez. Alors, vraiment, ça, c'est vraiment, c'est touchant, ça. Quand on a côtoyé, n'est-ce pas, des évêques qui se prennent pour les demi-dieux, il faut savoir que, voilà, c'est touchant, ça touche beaucoup. Donc c'est quelqu'un vraiment qui m'a fasciné. Encore une fois, j'ai aimé son combat aux côtés des mal logés, des sans-abri. Rappelez-vous, en 1996, il y a eu 300 papiers africains qui avaient occupé, n'est-ce pas, l'église Saint-Bernard à Paris, et Gaillot était de la partie. Il était là. Parce que pour lui, c'est l'homme d'abord, c'est l'humain. Vous voyez ? Il dit que l'église, être chrétien, c'est d'abord avoir la passion de l'humain. Ouais, et ça, moi, vraiment, ça me parle, ça. Donc voilà un peu quelques raisons pour lesquelles j'ai tenu à le voir. Et vraiment, je remercie le ciel qui a permis que nos chemins se rencontrent ce jour de décembre 2020.
Monseigneur Jacques Gaillot a été démis de ses fonctions par le Vatican. Pensez-vous que cela était justifié, Jean-Claude?
Bon, pour le Vatican... À l'époque, qui était dirigé par Jean-Paul II, et n'est-ce pas, son scribe et gardien de la foi, Joseph Ratzinger, c'était justifié cette éviction-là. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que l'Église, à ce moment-là, ait pris une bonne décision. Parce que, comme le disait mon co-panéliste, Gaillot était vraiment un homme avant-gardiste. C'est un prophète. Et vous savez, les prophètes ne sont pas toujours compris. Ils sont même rejetés, marginalisés, persécutés. Et ça, c'est ça. Hein, parce que tous ces combats que Gaillot a menés, l'histoire est en train de lui donner raison. Vous voyez ? Je prends comme ça quelques exemples. L'utilisation du préservatif pour éviter la propagation du sida. À l'époque, c'était un discours qu'on ne voulait pas entendre, que l'Église ne voulait pas entendre. Mais Benoît XVI, finalement, a accepté cela, vous voyez. Benoît XVI, donc, Joseph Ratzinger est devenu pape, a accepté l'utilisation du préservatif pour éviter le développement du sida, vous voyez. Et donc, il y a ça. Il y a la question, n'est-ce pas, de l'ordination d'hommes mariés. Je crois que le pape actuel François, il est favorable à ça. Mais Gaillot, déjà, à l'époque, il parlait de ça. Hein, il plaidait pour ça. Vous voyez, donc, moi, de mon point de vue, ça a été une décision malheureuse. Vous voyez, c'est pas parce que quelqu'un ne fait pas comme les autres qu'il faut le sanctionner. Vous voyez, il avait sa manière, voilà. Il avait sa manière d'être évêque. Vous voyez, et cette manière, je peux vous le dire, beaucoup de gens, y compris à l'élection de l'Église, se sont reconnus dans cette manière-là d'être évêque. Hein, la preuve, c'est que le jour, justement, où il quittait Évreux, c'est-à-dire le jour de sa messe de revoir, il y avait 20 000 personnes, vous imaginez, on n'avait jamais vu ça. 20 000 personnes à la messe de revoi de Gaillot. Et il y avait encore du monde à l'extérieur de l'église. Donc ça montre à quel point ce monsieur a touché les gens, y compris en dehors de l'église. Donc sanctionner un tel homme, à mon avis, c'est une erreur. Et moi, je suis sûr que si c'était du temps de François, François n'aurait pas évincé Gaillot. François n'aurait pas fait ça.
J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait que les Français aiment tout ce qui est rebelle, contestataire ou révolutionnaire, si vous voulez, mais que ça ne marche pas ainsi avec l'Église. On ne négocie pas avec l'Évangile ni avec la tradition, selon la personne à qui j'ai discuté.
Oui, je crois que le constat est vrai. Le constat est vrai. Mais à mon avis, ceux qui disent que l'Église n'accepte pas les révolutionnaires, je pense qu'ils se trompent, parce que quand on regarde le premier révolutionnaire, mais c'est le Christ. C'est le Christ qui dit que, voilà, par exemple, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Hein, le Christ qui dit, voilà, laissez venir à moi les enfants. Hein, qui va discuter avec une femme, la Samaritaine. Donc, Jésus a été le premier révolutionnaire. Donc, si dans l'Église, aujourd'hui, on a des prêtres, des évêques, qui essaient de vivre comme Jésus, le premier révolutionnaire, mais on ne devrait pas les sanctionner pour ça. Au contraire, on devrait les applaudir. Parce que c'est ça, d'ailleurs, la mission du chrétien. Être prophète, être un signe de contradiction dans le monde.
Pour la petite histoire, c'est le cardinal béninois Bernardin Gantin, préfet de la congrégation des évêques et doyens du collège cardinalis, qui lui avait signifié sa suspension ratifiée par Jean-Paul II. Le cardinal Bernardin, qui était aussi un grand ami de Benoît XVI. Nestor, votre point de vue sur son éviction par le Vatican, des gens, ceux en tout cas qui sont de l'Église, disent que Monseigneur Gaillot s'est coupé de l'épiscopat et a choisi de faire cavalier seul.
En fait, il a, comme il le dit lui-même, à partir du moment où il a été marginalisé, et il a accepté sa situation avec beaucoup de distance, de sérénité. Il s'est consacré à ce qu'il pensait être juste. Et il a continué notamment à s'engager, et notamment dans la lutte pour la paix. Il était toujours avec les mouvements qui étaient contre les essais nucléaires. Il était toujours en soutien, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les sans-papiers, avec les chômeurs, avec les SDF. Il y a une association qui s'appelle Droit des Vents, qui a été créée par un médecin, j'oublie son nom, et il était avec Jacquard, Abbé Jacquard. Voilà, donc il a continué à agir sur le plan social, politique et moral. Et en quelque sorte, on peut dire que le fait qu'il a été marginalisé ne l'a pas empêché de continuer à faire ce qu'il pensait être juste. Et je crois, sincèrement, comme le disait mon collègue tout à l'heure, que le paradoxe de l'Église, c'est que c'est une Église qui se réclame de Jésus, mais qui oublie justement le message du Christ, qui dit qu'il est venu non pas pour les bien portants, mais pour ceux qui souffrent, pour les pauvres, pour les malheureux. Donc, ce qui veut dire que normalement, l'Église doit se trouver du côté des humbles, de ceux qui souffrent, du côté de la justice sociale, du côté de la paix durable. Voilà, donc je pense que c'est un homme, il est resté croyant, pratiquant, mais aussi engagé. Et je pense qu'il était totalement en conformité avec sa compréhension de l'Évangile.
Jean-Claude, un prêtre avec qui j'ai discuté, il dit que l'Église travaille avec les exclus, dont les prostituées, les drogués, les aveugles ou jeunes filles célibataires. Donc, selon lui, il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas le voir. Il dit que, normalement, la liberté va de pair avec la responsabilité. Donc, Gaillot a soutenu des doctrines moralement répréhensibles, selon lui.
Et la question m'est adressée?
C'est ça, oui.
Non, je crois que Gaillot avait une définition de l'Église personnellement que j'approuve, à laquelle j'adhère. Il disait que l'Église, son rôle, c'est de soulager, d'accompagner, hein, et non de charger les gens de fardeaux nouveaux. Et quand on regarde Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, justement, il a été aux côtés des exclus, des petits, des pauvres, des rejetés. Donc, je veux dire que Gaillot, il ne fait que marcher dans les pas du Christ. Vous voyez? Bon, alors, je sais que, évidemment, bon, moi, je n'étais pas d'accord avec tout ce que Gaillot a fait, par exemple, la bénédiction des couples homosexuels. Hein? Bon, Gaillot, lui, il est pour ça. Et je crois qu'on peut même dire qu'il est pour le mariage homosexuel. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein, parce que quand on lit l'Ancien Testament, en particulier Lévitique 18-22, c'est bien écrit. Hein, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Hein, c'est une abomination. Vous voyez? Donc ça, c'est dans la Bible. Et je veux dire que l'Église, sa boussole, c'est la Bible. Hein, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Donc là, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais hormis cela, je pense que les causes que Gaillot a défendues, c'est les mêmes causes que le Christ de son temps a défendues. Donc on ne peut pas dire que c'est un hérétique, hein, ou bien que il prêche autre chose que l'Évangile. Ça, je ne suis pas d'accord.
Nestor, on connaît plein de figures, notamment Martin Luther King, Desmond Tutu, Jean-Paul II, Mère Teresa et d'autres qui ont lutté pour le respect de la dignité de la personne humaine, ce qui est la mission prophétique de l'Église. Qu'est-ce qui distingue ces personnalités de Monseigneur Gaillot?
Vous avez raison, Monseigneur Gaillot, on pouvait le mettre dans la filiation des personnalités comme effectivement Martin Luther King, comme Domer Del Camara en Amérique du Sud, Monseigneur Romeo, Desmond Tutu. Et justement, ce qui les rapproche, c'est cet engagement social. C'est le fait que la lecture qu'ils ont de la Bible les pousse en fait à l'engagement social et notamment du côté des plus faibles. Et je pense que ça c'est vraiment un des dénominateurs communs. Et ils sont contre l'exclusion sociale, mais ils sont contre aussi les discriminations et les discriminations liées à la peau, liées au genre et voilà, donc il y a ça, et pour certains, ils ont un engagement politique évident, parce qu'ils pensent que c'est par, justement, la politique qu'on peut changer cet état de misère, et pas la bienfaisance. C'est comme ça que, par exemple, en Afrique du Sud, on va dire en Amérique du Sud, Domer Del Camara est un des piliers de ce qu'on appelle la théologie de la libération, cette théorie de l'Église et qui est liée à l'engagement politique, envie de changer, bien sûr, la situation des pauvres, des exclus. Voilà, et on peut dire la même chose aussi de Desmond Tutu, dans la mesure où il était contre l'apartheid, il était très proche de Mandela lui-même qui était le président du Congrès national africain. Donc, et Monseigneur Gaillot, il n'était pas dans une organisation politique, mais à travers son engagement social, et notamment les associations dans lesquelles il avait un rôle très important, les associations qu'il a créées comme Droit des Vents, ce sont des associations, en fait, qui luttent pour les droits des exclus. Donc, on peut dire que c'est vraiment cet engagement social, cette lutte contre les discriminations diverses dans la société qui rattachent les uns aux autres.
Jean-Claude, on vient de le dire, Monseigneur Jacques Gaillot a été critiqué pour certaines de ses prises d'opposition, mais a également été salué pour son courage et sa compassion envers les plus vulnérables. Comment pouvez-vous évaluer ces deux aspects de sa personnalité?
D'abord, je voudrais confirmer le fait que les évêques de France, je ne sais plus en quelle année, mais c'est longtemps après son édiction, ont reconnu que Gaillot avait le souci des pauvres et des périphéries. Ils ont reconnu ça. Donc c'est un hommage qu'ils lui ont rendu. Et je crois que c'est en septembre 2015, d'après ce qu'il m'a dit lorsque nous nous sommes rencontrés à la rue Le Monde, il m'a dit qu'il a rencontré le pape François. Il l'a rencontré. Et pour moi, cette rencontre est la valeur de reconnaissance de son ministère auprès des pauvres, auprès des exclus. C'est une forme de réhabilitation. C'est une forme de réhabilitation. Ouais, donc, pour moi, les combats que Gaillot a menés, c'est des combats qui sont dans la ligne de l'Évangile. Et pour moi, cet homme-là, c'est un prophète, hein, au même titre que Martin Luther King, Don Elde Camara, Nelson Mandela, voilà, et tous les autres. Il est vraiment, je dirais, dans cette catégorie-là. Alors, on sait qu'on lui reprochait. On lui reprochait d'être trop présent dans les médias. Voilà. De jouer un peu perso. Voilà. On dit, voilà, il fait des déclarations intempestives, hein, sans l'accord, n'est-ce pas, des évêques. Bon, mais écoutez, dans la mesure où ce qu'il dit ne va pas contre l'Évangile, hein, moi, je ne vois pas vraiment le problème. Vous voyez? Mais je crois que ça, on ne le dit pas souvent, mais il faut dire qu'il y avait aussi une certaine jalousie, hein, de certains évêques vis-à-vis de Gaillot. Parce que Gaillot, il faut dire qu'il était populaire, les gens l'aimaient. Hein, les gens l'aimaient. Il était invité, n'est-ce pas, par les journaux. Et donc, bon, je crois que certains évêques ont pris un peu ombrage de cela. Ils n'aimaient pas ça. Voilà. Bon. Mais moi, je crois que cet homme, pour lui, c'était sa manière de vivre l'Évangile. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier, et d'ailleurs, il est heureux que le pape actuel, justement, parle beaucoup de ça, hein, en invitant l'Église à sortir de l'Église, hein, pour aller vers les périphéries. Il y a un jésuite italien que j'avais rencontré autrefois à Milan. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle en italien « Uscire dal Tempio », c'est-à-dire « Sortir du temple ». Il faut sortir du temple pour aller vers les périphéries, pour aller vers les mal logés, les sans-abri, les gens rejetés. C'est ça la mission de l'Église. L'Église n'est pas là pour rester, n'est-ce pas? Les chrétiens ne sont pas là pour rester entre eux, vous voyez? Il faut qu'ils aillent, ils doivent sortir comme Jésus. Jésus n'était pas dans un bureau. Jésus parcourait les bourgs et les villages. Il rencontrait les gens. Et c'est ce que Gaillot a essayé de vivre. Ouais, donc moi, ce monsieur-là, je n'ai pas la capacité de canoniser, mais pour moi, c'est un saint.
En quelques secondes, Jean-Claude, dans quelle mesure pensez-vous que sa vie et son expérience peuvent inspirer les jeunes et les laïcs catholiques aujourd'hui? En 30 secondes.
Oui, justement, moi, je crois que les jeunes qui cherchent des modèles, mais Gaillot est un modèle parce que Gaillot avait cette liberté de penser. Vous voyez? Et voilà, ce qui est très fort chez lui, c'est justement cette capacité d'aller là où l'Église n'a pas coutume d'aller. Vous voyez? Et moi, vraiment, je pense que les jeunes, c'est un peu ça qu'on attend d'eux. Hein? Faut sortir de l'Église. Il faut aller, hein, vers, n'est-ce pas, les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que ce qu'on repose souvent à l'Église, c'est quoi? C'est que l'Église, elle est souvent avec les riches, avec les puissants. Gaillot, c'était tout le contraire.
Nestor, la même question.
Oui.
En quoi pensez-vous il va influencer les jeunes laïcs catholiques en 30 secondes?
Je pense sincèrement que, d'abord, c'est une personnalité très, très populaire, en réalité, qui a déjà inspiré beaucoup, beaucoup de croyants. Et je pense que son exemple, de toutes les façons, va continuer à rester vivant. Et
Merci à Nestor Vidada Nouré, merci à Jean-Claude Jéréqué. On parlait des œuvres de feu Monseigneur Jacques Gaillot, Eric Manilakiza.